Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est l'inquiétude qui envahit désormais tous les joueurs et sélectionneurs de foot du monde entier. Pas une semaine ne passe sans un nouveau joueur blessé ou forfait, même presque pour la Coupe du Monde qui est dans 40 jours hein, précisément aujourd'hui. Lamine Yamal ne jouera plus en Liga par exemple, l'Argentine a eu peur pour Julian Alvarez après le match aller de Ligue des Champions en demi-finale, et nous pour Kylian Mbappé hein, évidemment ces derniers jours, ou le Maroc avec Achraf Hakimi, je rappelle, est forfait pour le match retour de Ligue des Champions. A priori ça devrait aller pour la Coupe du Monde. Mais on en est là quand même, les GG, à travers vos expériences. Je voudrais qu'on parle de ça quand on prépare un gros événement, la peur de la rater sur blessure. Est-ce que vous y pensez? Est-ce qu'on joue parfois avec le frein à main ou est-ce que c'est un truc de journaliste? Tiens, Denis, on va commencer par toi. Est-ce que, à l'approche d'un gros événement, est-ce qu'il peut y avoir une psychose qui s'installe dans la tête d'un joueur?
Bien sûr,
d'un sportif.
Alors, il peut, mais moi, j'ai eu la chance de ne pas trop me blesser dans ma carrière. Donc, du coup, j'ai pas jamais pensé à la blessure que j'aurais pu me avoir par le passé. Donc je me souviens de la Coupe du Monde.
Tu penses que la psychose on l'a quand on a déjà été marqué dans son corps?
Davantage, il me semble. Après, en rugby, c'est différent. C'est un sport différent que le football, par exemple. Ou alors, je dis pas qu'il se cache, mais tu peux davantage te cacher au football qu'au rugby. Au rugby, c'est un sport d'engagement, c'est un sport total où tu as pas le droit de jouer en demi-teinte. Et au contraire, même souvent quand tu es en demi-teinte, tu te blesses. Ça arrive très souvent. Donc t'es obligé de ne pas penser à la blessure, t'engages totalement. Évidemment, un petit coin de ta tête, dans ton subconscient, t'y penses. Mais la vérité, c'est que moi, quand on est allé en Coupe du Monde en 87, il y a eu des blessures graves de collègues. Tu vois, moi, j'ai pas pensé, mais j'étais surtout surpris par celles des autres. Et ça me hantait un petit peu.
Il y a eu des blessures graves juste avant la compétition.
Il y a eu Jean-Baptiste Lafond qui a été forfait le jour même du départ, qui a été remplacé par Didier Gambera-Véro. Et on arrive en Nouvelle-Zélande et Eric Bonneval, qui était le meilleur joueur européen, qui survolait l'Europe comme trois carrels. Premier entraînement contre une petite équipe
locale,
en opposition locale. Le joueur lui tombe sur le genou et lui fracasse le genou. Les croisés et Coupe du Monde finie.
Mais ça crée pas une psychose dans le groupe, justement?
Est-ce que les entraînements sont les mêmes après, en fait? Là, les entraînements n'ont pas été les mêmes, puisqu'on a arrêté l'opposition. On était à quelques jours du premier match de la Coupe du Monde contre l'Écosse. Et c'est vrai que ça a été un traumatisme, mais presque. Enfin, je veux dire, on a été tous quand même très perturbés par cette blessure, qui était très grave. Mais
vous aviez la même intensité après? Quand vous entraîniez?
Après, en match, oui, tu l'oublies.
Aux entraînements?
Non, tu lèves le pied aux entraînements. Ah oui, là, tu lèves. Je te dis, je pense que je me souviens bien, il n'y a pas eu d'opposition derrière. C'était fini. Donc, il y a eu ce match en opposition, très engagé. Et puis, la malchance aussi. Il y a aussi cette part de malchance. Je te dis, moi, j'ai eu la chance de ne pas être blessé, donc de ne pas faire référence à un traumatisme.
Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que les joueurs de foot, avant la Coupe du Monde, on est à 40 jours, je le disais, quand ils voient la liste de ceux qui sont en difficulté physique, est-ce qu'il n'y a pas une psychose qui s'installe? Franchement, c'est ça, en fait.
Une psychose, non, mais c'est sûr qu'il y en a
qui... Ils y pensent, au fond. Mais je pense plus que c'est plus dans le subconscient.
Non, mais et puis il y en a, moi je suis d'accord avec Denis, il y en a qui vont se préserver en vue de cet événement, c'est sûr. Il y en a beaucoup, là, on voit, tu as cité deux, trois exemples, mais quand on voit comment il s'appelle le Hollandais, là, Xavi Simons, qui s'est pété et qui...
Avec Tottenham.
Voilà, il pense tout de suite à ça. C'est normal.
Surtout comment est critiqué chez nous.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, la liste elle s'allonge. Toi, Bennett, dans ta carrière, en tennis, alors c'est un sport individuel, c'est un peu différent aussi, mais à l'approche, je sais pas, d'un Roland Garros, est-ce qu'on fait des choix différents? Est-ce que dans la préparation est différente parce qu'on se dit faut faire attention?
Ça dépendait des années. Il y a des années où la semaine d'avant on pouvait jouer en tournoi. Maintenant c'est Genève et je ne sais plus quel tournoi. Avant il y avait des tournois en Autriche, etc. On n'y pense pas, on se donne à fond. Après, si on a une petite douleur quelque part, là où n'importe quand dans le calendrier on va continuer à jouer le tournoi, là, on va se retirer du tournoi pour pas prendre de risques et pour rentrer, se soigner, faire tout ce qu'il faut, vraiment être très précautionneux.
T'as quand même un logiciel grand chelem à venir, en fait.
Voilà. Ouais, mais l'avantage en sport individuel, c'est que c'est toi, ton propre chef, qui décide si t'as envie de participer. En sport co, t'es dans une période de Ligue des Champions et t'as une Coupe du Monde derrière. Tu peux pas aller voir ton coach en lui disant, tu peux me mettre sur le banc, là, parce que...
On parlait de Mbappé la semaine dernière, t'as raison, il y a un classico contre le Barça qui arrive. J'imagine que les Madrilènes aimeraient le voir jouer.
Oui, les Madrilènes, mais après, l'équipe de France, Deschamps, ceux qui sont au-dessus, ils se gèrent. Après, le gars qui est un peu en dessous et qui veut prouver pour aller à la Coupe du Monde, c'est pas pareil.
Oui, les classiques, c'est toujours important.
Je prends un joueur comme Thauvin, par exemple, aujourd'hui, il peut pas lever le pied.
Non. Oui, t'as raison, ça dépend évidemment.
Ça dépend aussi
de ta situation, ouais.
Non, mais le classico, d'accord, c'est toujours important. Mais ça se trouve, le Barça sera déjà sacré champion. Donc, sportivement, il n'y aura aucun enjeu.
Si, ça a toujours un enjeu, un classico, Benet, pour les supporters.
Mbappé, son enjeu, c'est d'être à 100% pour la Coupe du Monde.
Je pense que Mbappé, lui, son enjeu, c'est pas le classico.
Bien sûr.
Parce qu'il aura le temps d'en jouer dans sa carrière.
David, sur la peur de se blesser avant un grand événement. On en a parlé tout à l'heure. Toi, tu as eu ton accident de moto avant Sydney 2000, avant d'essayer d'aller chercher cette deuxième médaille d'or.
C'était longtemps avant.
Mais ouais. Pour toi, c'était. Est-ce que tu as eu cette peur, justement, de rater cet événement?
Bien sûr que tu as la peur de rater l'événement. Forcément, tu te dis, tu n'es jamais à l'abri de rien. Mais ça fait partie du job. Donc le risque, tu le prends. C'est-à-dire que si ton physique va bien, si tu n'as pas de problème majeur, que ce soit en préparation à l'entraînement ou même en compétition de préparation pour un grand événement, tu t'es pas à 110% comme tu dois l'être sur le grand événement. Tu te mets un petit cran en dessous, légèrement en dessous, et t'essayes de piloter le truc à peu près avec de la sauvegarde. Évidemment, tu gardes toujours une petite marge. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que quels que soient les sports, alors peut-être un peu plus dans le rugby ou dans les sports de contact, etc., etc. En réalité, la vérité, c'est que tu passes ta carrière à avoir toujours quelque chose. T'as toujours une petite blessure, à minima, à gérer. Donc tu passes ta carrière à être blessé, entre guillemets. Donc en fait, tu passes ta carrière à gérer ça, à gérer la blessure ou la blessure récurrente ou ta fragilité, etc. Donc tu passes ton temps à réfléchir comment ne pas retomber dans la blessure grave qui va t'empêcher de. Donc tu passes ton temps à contourner le problème en n'allant pas dans le secteur où tu risques d'aggraver ce que tu peux avoir. Donc tu contournes tous les mouvements, tout ce qui peut t'amener à te mettre en situation d'arrêt.
C'est-à-dire avant les Jeux Olympiques, avant une compétition très importante, il y a des choses que tu ne tentes plus, on va dire. Que tu tentes moins, en tout cas.
Il y a des mouvements que tu tentes plus, tu gères ton énergie autrement, tu gardes un petit peu de réserve, enfin bref, que tu te mets en sauvegarde, voilà. Donc tu lèves légèrement le pied. Tu lèves pas le pied, hein, parce que sinon tu fais pas du haut niveau.
Il y a des sports qui le permettent aussi.
Légèrement le pion.
David, il y a des sports qui le permettent, il me semble, non?
Des sports et des périodes.
Ça dépend. En revanche, lorsque t'es au jour J, sur l'objectif final, là, t'y vas plein pot. Et ça passe ou ça casse. Là, tu calcules plus rien, quoi. Toi, c'est...
Et là, mais tu t'es blessé. Il t'est arrivé de te blesser en compétition lors d'une journée hyper capitale, un championnat du monde, des Jeux Olympiques. De premier combat, paf, allez, à la casse-bas.
Oui, ça m'est arrivé. Une fois, je me suis fait. J'ai eu une luxation du coude en finale des Championnats de France. C'était pas simple à gérer après, quoi. Ça m'a vraiment pourri le reste de la saison, quoi. Sincèrement. Mais ça t'y peut rien, c'est accidentel. Le mec te retombe sur le bras, t'as le bras qui explose. Voilà. Terminé, fin du bal. Tu fais comme tu veux, quoi. Tu fais comme tu peux. Et après, ce bras, tu as une séquelle qui dure toute ta carrière après. Alors ça, tu le gères. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'apprends à le gérer. Donc tu déclenches pas les mouvements qui font que, ou à minima. Mais en fait, la carrière d'un athlète de haut niveau, en réalité, c'est avant tout de gérer le physique. Et dans gérer le physique, il y a gérer les pépins ou les fragilités que tu peux avoir. C'est avant tout ça. Le nombre de gens que j'ai pu entendre qui font pas de haut niveau, hein. Ah, bah, j'ai été obligé d'arrêter le sport parce que j'ai ceci, j'ai cela, je me suis fait un genou, etc., etc. Bah, c'est qu'ils étaient pas faits pour ça. La vérité, c'est que, faut être câblé, intellectuellement pour aller au-delà de la douleur, au-delà de la blessure, pouvoir continuer à faire quelque chose.
Non, mais il y a aussi
on est dans le vestiaire des grands gagnants, mais il y a aussi la peur de rater une grande échéance.
Dont on est obligé de parler, c'est quand même la chance qui fait partie intégrante de ta carrière. Je suis désolé.
Complètement.
Non mais et ça tu peux pas le calculer.
Bah, souvenez-vous, Djibril Cissé qui se fait casser la jambe avant une Coupe du Monde.
Non mais voilà, moi une année à l'US Open, je me
Marconnet qui se pète le ski avant de partir à la Coupe du Monde.
Bon là, c'est ski. Une année.
Moi je suis pas. Vas-y, David. Je pense que c'est pas de la chance. Je pense que c'est pas de la chance.
Wow,
je pense que quand non, tu peux me dire ce que tu veux.
Non, mais je pense...
quasiment 10 sur 10, la blessure. Derrière la blessure, tu trouves des causes. les causes à effet. Toujours.
Eric Bonneval à la Coupe du Monde, il a un immense forme et il y a un mec qui tombe sur le genou. Excusez-moi, c'est quoi?
Tu prends attaque par derrière.
Parce qu'il l'a pas vu venir. Non, mais ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Mais quand tu fais du haut niveau, au top du haut niveau, tu dois avoir des yeux dans le dos. Je suis désolé pour pouvoir passer dans toutes les circonstances. Et peut-être qu'à un moment donné, ta concentration, etc., t'échappe parce que t'as un souci, t'as un truc que t'as pas réglé dans ta vie tout court et que il te manque 1 ou 2% de concentration qui fait que ça te tombe dessus. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça.
Pas dans tous les cas, je suis désolé.
Quasiment.
Revenir sur la peur de rater une grande échéance. Une année en 2010, j'étais au 3e tour de l'US Open, je me pète le poignet. Ce qu'a Alcaraz là, moi je l'ai vu à gauche, le CU. Et en fait, 15 jours après l'US Open, on avait la demi-finale de Coupe Davis contre l'Argentine à Lyon. Et ben au moment où je rentre au vestiaire et que je vais voir le médecin du tournoi, je pense directement à ça. Est-ce que je vais, en fait.
Oui, tu dis, je vais louper ça.
Exactement. J'espère, etc., parce que j'étais dans l'équipe depuis le début de l'année. Et tu sais que tu vas louper ça. Et c'est tout le temps dans ta tête. Donc oui, il y a quand même une appréhension, mais quand ça arrive, tu penses tout de suite à ça.
Il y a des choses que tu ne veux pas rater, surtout évidemment. Pour toi, la Coupe Davis avait valeur différente en plus.
Exactement. Et pour revenir là, sur les joueurs de foot par rapport à la Coupe du Monde, on peut pas leur en vouloir, à part ceux qui sont encore,
qui se battent pour une place de titulaire, par exemple, pour être dans les 23.
Exactement. Tu vois, et c'est normal, et je leur en veux pas de penser comme ça. Tu vois, par exemple, là, je viens de dire, je sais pas s'il est dans l'équipe d'Argentine, Rulli.
Geronimo Rulli, oui, bien sûr, il est dans l'équipe d'Argentine.
Bon, cet après-midi, il joue pas, il est pas dans le groupe.
Ah, bah là, il était numéro 2, il a glissé numéro 3 de la sélection.
Mais il a mal au dos. Moi, je suis entraîneur ou directeur sportif, je peux pas m'empêcher d'avoir le doute de me dire,
je me préserve.
Il se préserve pour la Coupe du Monde. Et il y en a plein. Ils ont intérêt à faire ça. Alors, s'ils sont sûrs d'être dans les 23 ou dans les 25,
c'est très bien. Arrêtons l'hypocrisie, ce n'est pas un truc de journaliste.
Non, mais
on dit souvent, préserver les gars.
Non, mais attendez,
Georges, merci, un peu
d'honnêteté. Non, mais Georges, tout dépend du sport.
Bien sûr, est complètement différent. Je suis d'accord avec toi.
Julien, c'est à double tranchant, parce que si tu montres au sélectionneur que t'as mal au dos avant le championnat, le sélectionneur se dit, mais le mec, il est fragile, attention, quoi, tu vois.
Ça dépend des
règles. Faut faire gaffe à ça. Oui, c'est un jeu dangereux, hein.
Chris.
Par exemple, tu vas faire une grande compétition et que t'as ton gamin qui a une gastro, qui a une grippe, est-ce que ça peut aussi, ce genre de truc, peut t'inquiéter? Est-ce que tu vas pas embrasser tes enfants avant de partir à la compète, de peur de tomber malade?
Ah oui, dans ce sens-là, quand t'es encore en activité, et que, bien sûr, et que t'as des membres de l'entourage.
Ah bah, les marins, avant de partir, sur les Vendée Globe, des choses comme ça, il faut attention, hein.
Non, mais tu fais attention à.
C'est quoi, tu mets un masque à la maison si jamais t'as un grand chelem derrière?
J'ai jamais fait ça. Mais oui, tu adaptes et tu vis différemment avec ton entourage si jamais il y a un petit risque.
Après, tu prends. Je dis ça parce que c'est arrivé dans les expéditions Apollo. Les mecs qui partaient dans l'espace. Et là, je peux te dire que t'avais une place sur 3 milliards. Mecs faisaient attention à tout. Dans les semaines qui précédaient.
C'est toujours le cas. L'équipage d'Artemis qui est parti récemment. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Ils se sont mis presque en quarantaine. Mais David, toi, ton dernier grand objectif de carrière, c'était Sydney. T'as pris plus de risques que d'habitude parce que tu savais que c'est ta dernière chance, ta dernière carte d'une certaine façon.
Non, justement, j'ai fait hyper gaffe parce que j'avais les voyants du tableau de bord qui étaient rouges à l'entraînement, partout, tout le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté après. J'ai passé mon temps à contourner et à trouver des solutions d'entraînement et en contournant mes faiblesses physiques pour optimiser mon état de forme et arriver en forme. Puis après, j'ai lâché les chevaux.
Tu t'es dit, c'est ma dernière fenêtre, ça, je peux
aussi,
pas
par rapport à ton âge aussi, à ton expérience, à tout ce que t'avais vécu par le passé. Oui. Non, mais c'est arrivé en pleine carrière, c'est pas la même chose qu'en début.
C'est pas la même chose, mais t'es obligé de réfléchir constamment à adapter ta préparation, ton entraînement, ta prépa physique, ta prépa spécifique, etc., etc. Et même les compétitions de préparation avant, pour arriver à peu près en ordre de marche le jour de la compète. Et malgré tout ça, la vérité, c'est que le matin de la compétition, je vous parlais de ma luxation au coude, qui était arrivé quand même 10 ans avant. Hein. Et ben j'ai en prenant ma douche le matin de la compétition. Non, j'ai pas que j'ai pensé. Je suis en train de me doucher, de me savonner, et j'ai mon coude qui se bloque. Je suis obligé d'appeler le médecin de l'équipe de France pour qu'il me débloque le coude parce que j'avais des fragments de cartilage qui se baladaient dans le coude encore, tu vois. Et là, tu pars à la compète, au jeu, et tu te dis, attends, ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Ça m'est arrivé ce matin à la douche.
T'as fait gaffe, ça peut m'arriver cet après-midi. Et ça t'arrive le matin sous la douche.
J'étais obligé de l'oublier. Parce que si jamais je faisais gaffe,
comment tu es arrivé à l'oublier? Parce que c'est ça qui est curieux.
Ce n'est que du mental. Tu te dis, bon, ok, je me suis bloqué le coude ce matin. C'est la première fois que ça m'arrive en 10 ans. Donc, la probabilité à ce que ça m'arrive à nouveau dans l'après-midi, elle doit être faible. Elle est faible, elle est forcément faible. Et tu te convaincs de ça. Et donc, tu pars et tu dis, bon, c'est bon, ça n'arrivera pas. Si tu fais pas ça, t'es mort.
Toi, t'as pas le choix, mon vieux. C'est des blessures, notamment quand t'es joueur de tennis, qui sont embêtantes de par la suite, tout notamment. T'as pas derrière des psychoses de te refaire mal au même endroit.
Non,
est-ce que tu fais pas plus attention, un peu comme le disait David.
Ce qui était très dur, c'était l'appréhension que j'avais quand j'ai repris, où j'avais le feu vert médical, mais j'avais des douleurs. Et on me disait, ne t'inquiète pas, ça peut pas relâcher, parce que la cicatrice, elle est vraiment très importante, très épaisse, donc ça peut pas relâcher, ça fait mal, parce qu'il y a des frottements, etc. Donc il m'expliquait pour que je comprenne vraiment d'où venaient mes douleurs, et j'avais du mal vraiment à
te relâcher complètement.
Complètement. Et donc je me suis fait ça au mois de septembre, j'ai eu toute la période d'immobilisation, de rééducation jusqu'à la fin de l'année. J'ai repris en début d'année la saison normale début janvier. J'avais mal. Et de temps en temps, c'était mon revers à deux mains, je poussais la balle, je me livrais pas. Et il y a eu un déclic dans la tête, je sais pas pourquoi, j'étais au Queens. Donc on est après
Roland Garros. Tournoi sur gazon avant Wimbledon,
pas la boîte de nuit. Hein.
Donc ouais, au mois de juin. Et je me souviens à ce moment-là, j'étais à l'entraînement, et tout d'un coup, j'ai eu un déclic, j'en ai eu marre de jouer avec le frein à main. Et là, j'ai fait 10 revers de suite de toutes mes forces, où je les ai envoyés dans le mur.
Mais pour lâcher, quoi.
Mais t'as lâché le truc.
Et j'ai vu que mon poignet n'avait pas lâché.
Je vais faire ça, moi, tiens.
Mais c'est un peu ce que dit David, en fait, ce côté mental, finalement.
Voilà. Et donc, j'ai pu me libérer de ça. Oui. Mais pendant 6 mois, 5 mois, l'appréhension, elle était là, c'était un enfer. En plus, le cerveau, il enregistre la douleur. Et donc, t'arrives le matin, avant de taper les premiers revers, tu sais que tu vas avoir mal. Donc déjà, t'as mal dans la tête et après, t'as mal. C'est très pénible.
L'humain se met toujours en protection. Le corps humain, il est toujours comme ça. Il est toujours en protection ici. Il prend de la marge. Et en fait, on a vraiment un delta de progression par rapport à la douleur. Il faut aller vraiment au-delà de la douleur, de ce que le corps nous envoie comme signaux, parce qu'il se protège de trop, toujours. Et c'est bien. Mais ça te permet d'aller, quand tu sais ça, ça te permet d'aller beaucoup plus loin en respectant quand même une certaine sécurité.
Exactement,
par rapport à ton mal.
La prudence, c'est important, mais c'est vrai que parfois le mental, comme vous dites, c'est hyper intéressant.
Docteur David.
Bien sûr, docteur David. On voit un cabinet du docteur Douillet. Je pense qu'il s'y connaît.
DDD, docteur David Douillet.
Non, mais ça sert à ça, le vestiaire. C'est pour donner des conseils à nos amis qui vont.
Tu nous as régalé.
Je pense que les sportifs qui nous écoutent et ont pris quelques conseils, notamment.
Moi, je suis un vieux sportif, mais moi, j'écoute ce qu'a dit Julien sur le poignet et je vais lâcher.
Très bon, un kite, toi.
Kitesurf. Mais tant mieux. Je viens de dire, les jeunes sportifs comme Christophe, et derrière, c'est toi-même qui a.
Oui, parce que je sais que
je relève même plus les coups de rap. Il relève même plus les coups de rap, Christophe.
Mais non, t'es une planche pourrie, je te connais.
Retrouvez le vestiaire en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes pour avoir tous les bons conseils, c'est inspirant souvent et je sais que ça fait souvent écho chez vous aussi dans la vie de tous les jours.